La philosophie peut-elle guérir? Wolfgang Wackernagel, au micro de Serge Marchal.
Wolfgang Wackernagel, après avoir abordé plusieurs thèmes et plusieurs périodes de l'histoire où il s'agissait toujours de cette légende, cette fable, ce mythe d'Asclépios comme médecin de l'âme, aujourd'hui nous allons aborder quelque chose d'un peu plus actuel, donc un peu plus près de nous, plus, peut-être plus sensible, c'est la psychanalyse et surtout les antécédents philosophiques de la psychanalyse.
Donc on a une sorte de continuité jusqu'au 19e siècle où on assiste à l'émergence quand même du concept de science moderne qui a totalement révolutionné le 20e siècle. Et il est intéressant de voir qu'évidemment un des tournants dans cette révolution, c'est les travaux de Sigmund Freud. Donc qu'on le critique ou qu'on l'admire, c'est effectivement un auteur remarquable, il est en tout cas incontournable, il est une charnière aussi quand on l'étudie mieux par rapport aux matériaux dont il s'est servi, qui est moins connu. Donc cela s'est focalisé sur lui et je tiens à montrer au fond combien cette charnière a aussi été préparée avant lui et montre ce passage dans un rôle de la philosophie de nouveau comme guérisseuse, mais pour guérir bien évidemment les maladies de l'âme. Il n'est plus du tout question des maladies physiques si ce n'est de par le lien psychosomatique. Et je crois que là vraiment c'est encore une fois Paracelse que j'ai mentionné avant, qui est un des premiers points de départ de cette évolution qui marque le tournant au 19e siècle. Paracelse est un de ces personnages. Il est né en 1493 à Einsiedeln, il est mort à Salzbourg en 1541. Il a porté ce nom, rien que ce nom, quand on voit ça, on peut se demander si c'est un médecin, un savant, un philosophe ou un charlatan. Imaginez, vous avez un petit problème et vous allez consulter Monsieur Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. C'était son vrai nom. Surtout le terme Bombastus fait sourire aujourd'hui, c'est une interjection, Bombax. Hein. Quand on dit « Ah, c'est complètement bombasse », c'est une interjection exprimant l'étonnement. Un peu comme si on dirait diantre, fouchtra, etc. Donc j'aime beaucoup de voir déjà ce terme chez lui qui donne l'idée d'un super turbo médecin qu'on va voir. Donc visiblement, on a l'impression d'une part il porte un nom magnifique, de l'autre peut-être qu'il en impose un peu trop. On ne sait pas trop si c'est un charlatan ou un médecin réellement efficace. Le fait est qu'il a effectivement réellement révolutionné ou révélé de nouveau une médecine qui a préparé le chemin notamment de l'homéopathie. Il est intéressant de voir qu'il avait aussi quatre piliers dans sa médecine. D'une part la philosophie, le premier pilier de sa pratique médicale est la philosophie. Donc là on a réellement ce dont rêve, ce dont parle Leibniz, puisqu'il était avant Leibniz, un philosophe qui médicasse, comme vous avez dit, je crois, ou un médecin qui philosophasse. Donc philosophie, c'est la base de sa connaissance. Philosophie, tout d'abord, comme connaissance des secrets de la nature. Le deuxième pilier de sa science médicale, c'est l'astronomie. L'astronomie dans le micro et dans le macrocosme. Ça, c'est une des notions qui a été réintroduite par Paracelse, celle du micro et du macrocosme. Il y a l'alchimie qui a amené énormément. Il faut quand même dire que l'alchimie a jeté les bases de la chimie du 19e siècle. Même si dans certaines voies, elle a fait fausse route, c'est quand même elle qui a permis cet essor de la chimie au 19e siècle. Et finalement, l'éthique médicale. Et cette éthique médicale est peut-être ce qui fait que Paracelse, en fin de compte, n'est pas un charlatan. Cette éthique médicale consiste en la vertu. La base de ce quatrième pilier de la médecine paracelsienne, c'est la vertu, donc un souci, une recherche éthique du sens moral de l'action du médecin. Et évidemment, il est immoral d'être un médicastre, un bodimenteur, un charlatan, dont avertit notamment le musère médical du fidèle Eckhart. Ça, c'est une des légendes à laquelle je me suis intéressé, en parenthèse. Un des héritiers de Paracelse, c'est Jacob Böhm, qui était en fait cordonnier, le cordonnier de Görlitz, une petite ville à la frontière germano-polonaise actuellement, et qui est un peu le philosophe dilettante, mais il a développé toutes sortes de thèses qui ont influencé tout le romantisme, et c'est important parce que il a influencé de ce fait l'idéalisme allemand qui a redécouvert le thème de la conscience de soi. La conscience de soi comme effectivement un des remèdes philosophiques à l'existence, en quelque sorte au mot de l'existence. Donc là je résume évidemment très brièvement, mais cette influence de Jacob Böhm sur l'idéalisme allemand, qui est quand même une des racines de la philosophie du 19e siècle où Sigmund Freud a puisé beaucoup plus qu'on le pense. Sigmund Freud a dans l'essentiel puisé dans la pensée de Schopenhauer. C'est un des noms qu'il faut absolument mentionner. Schopenhauer, qui a vécu de 1788 à Danzig jusqu'à 1860, dans son ouvrage majeur « Le monde comme volonté et comme représentation », il montre ce qui est devenu plus tard la triple ère de Freud. Il montre en fait que notre monde est fait de représentations, nous avons des représentations des choses. Toute l'analyse philosophique s'est toujours surtout efforcée à analyser ces représentations. Et cependant, il constate qu'en fait, une bonne partie de ce qui se passe dans notre comportement n'est pas déterminée par la représentation, mais par ce qu'il appelle la volonté. Et là, il a en fait ouvert une sorte de marmite avec quelque chose, une sorte de force obscure, la dimension obscure de l'être humain, qui lui a fait assez peur. Et je crois qu'on peut dire que cette volonté de la triple ère chez Schopenhauer s'est cristallisée sur la volonté sexuelle, la force sexuelle chez Freud. Mais déjà Schopenhauer dit que en fait c'est les parties génitales qui sont un des aspects déterminants de la volonté, une dimension irrationnelle. Et Schopenhauer, c'est ce qui est intéressant, a montré que il faut absolument surmonter cette volonté à l'état brut, parce que sinon c'est la destruction de la civilisation. Et il a cherché des remèdes, il les a cherchés en dehors de l'Occident, d'une part peut-être dans une tradition occidentale ancienne, c'est-à-dire dans l'esthétique, dans l'art, l'art comme moyen de surmonter la barbarie, ce qui est un thème hautement actuel, et deuxièmement dans le bouddhisme. C'est là où j'aimerais quand même mentionner en passant que le bouddhisme, avec ses quatre vérités, est aussi une sorte de médecin. Donc Bouddha Shakyamuni lui-même se voyait comme un médecin du monde, qui, avec les quatre vérités, qui consistent en une analyse des maux, de la souffrance humaine, pour les surmonter, pourrait aussi être dit un philosophe médecin, donc en parenthèse. Et ce philosophe médecin a été confirmé par Schopenhauer, qui de ce fait voyait d'ailleurs aussi pas mal de liens entre la figure de Shakyamuni et le Christ, et notamment aussi Maître Eckhart. Il disait que l'enseignement de Shakyamuni ressemblait à Maître Eckhart déchristianisé, en quelque sorte. Et c'est là que Freud a puisé. Il a puisé dans une autre source qu'il faudrait mentionner, c'est celle de Franz Anton Mesmer. On parlait à l'époque beaucoup de mesmérisme, c'est un Autrichien qui a vécu au tournant vers 1734 jusqu'à 1815. Il a découvert le magnétisme animal. Et là, donc, on a quelque chose d'intéressant. Il y a à la fois une observation scientifique du magnétisme, plus tard de l'électromagnétisme, qui est un fait incontournable. Et par analogie, il dit qu'il y a un magnétisme psychique. Il faisait toutes sortes de séances spectaculaires qui ont beaucoup frappé les gens, donc bien avant Sigmund Freud. Ça, c'est un des éléments où, à la limite, on peut dire Mesmer était aussi, à la limite, était-ce un scientifique, était-ce un charlatan. D'une part, il se basait sur des découvertes, des observations que faisaient les chercheurs avec le magnétisme tout à fait constatable, celui matériel d'un aimant avec les champs que ça produit, et en transposant cela à des influx entre personnes, qui a joué un grand rôle dans l'enseignement de Freud. D'autre part, donc, on a Nietzsche lui-même, Friedrich Nietzsche, qui lui était établi un lien direct, parce qu'il faut savoir que Sigmund Freud voulait d'abord devenir philosophe avant de devenir médecin psychothérapeute. Il étudiait la médecine, mais il faisait partie de la Nietzsche Gesellschaft, et il a beaucoup puisé dans cette pensée tout en ayant une certaine discrétion par rapport à cette genèse, ou même en ayant rejeté par la suite, évidemment, la philosophie, un milieu dans lequel, il faut bien le dire, il n'était pas accepté. C'est peut-être pour ça que, voulant être philosophe, il est ensuite devenu psychothérapeute. Il y a encore un nom qu'il faut mentionner, qui est assez important, c'est Carl Gustav Carus. Le Carl Gustav, soit dit en passant, c'est le nom qu'a repris Jung, Carl Gustav Jung, en honneur à cet homme. C'est un médecin qui vécut à Leipzig, qui mourut à Dresde en 1869, un gynécologue très intéressant, donc qui est pas loin des sages-femmes, qui est pas loin aussi peut-être d'une approche de l'hystérie. L'hystérie vient de Hysteron, la matrice, et qui est le premier à avoir introduit la notion d'inconscient. Il dit juste brièvement, la clé pour la compréhension de la vie consciente réside dans l'inconscient. Sa définition est un peu différente de celle de Freud, mais on peut dire en fait que c'est Carus déjà qui a découvert cette notion moderne de l'inconscient dont Freud s'est servi. Donc tous ces gens sont en partie des philosophes, des magnétiseurs, des médecins, gynécologues. Tout cela se recoupe encore, donc c'est un modèle où toutes ces choses se trouvent l'une dans l'autre. On pourrait aussi citer des disciples de Paracelse comme Ignaz Paul Vital Troxler, qui a vu plutôt qu'une biologie, une biosophie, qui était d'ailleurs antérieure à la biologie. Et dans le XIXe siècle, simplement, ces gens qui ont introduit la notion de sophie ont été relégués au second plan par les énormes progrès d'une science empirique observable. Et c'est ça qui explique cet énorme triomphe des logies par rapport aux sophies. Je crois que la notion même de sophie ne revient en fait qu'au XXe siècle, maintenant qu'on voit qu'il y a peut-être quand même autre chose que l'observation empirique. Mais là, nous allons donc au-delà de ce que je voulais exposer jusqu'à présent.
Mais Wolfgang Wackernagel, à partir de tout ce contexte qui aurait fait naître la psychanalyse et Freud, il faut quand même, je crois, insister sur le fait que ce qu'il y a de spécifique avec Freud, c'est qu'il a mis au point une pratique curative. Et je ne sais pas si cette pratique-là était déjà constatable ou observable avant la discipline de la psychanalyse. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour notre sujet quand même, qui nous concerne cette semaine, dans la psychanalyse de Freud?
Alors, Freud a amené une pratique qui était en fait d'usage aussi autour de lui, mais c'est avec lui que, d'une part, cette philosophie, ces choses qui étaient peut-être un peu du charlatanisme, ont tout à coup revêtu la blouse blanche du médecin. Il a amené l'autorité du médecin dans un domaine qui était contesté, et il a amené, comme on le verra aussi, un certain nombre de choses qu'on peut vraiment dire être les inventions de Freud, tout en précisant qu'une partie de ces inventions repose sur d'autres médecins antérieurs dont il s'est servi et qui ont, à partir desquels il a fait la synthèse. Il faut notamment mentionner Janet, qui semble-t-il justement à Paris. Donc on peut dire que la psychanalyse est née à Paris et à Vienne. Freud était à Paris où il était élève de Charcot. Il a travaillé avec Janet, qui était élève de Charcot, et qui se sont beaucoup intéressés à l'hypnose, quelque chose qui s'est fait dans la foulée, au fond, des études sur le mesmérisme. L'idée que par l'hypnose, on peut remonter au traumatisme premier, c'est déjà une idée de Pierre Janet. Et l'hypnose était une des choses qu'on a énormément étudiées à ce moment-là. On a aussi tout vu en termes d'hystérie. Je crois qu'aujourd'hui, on a d'autres catégories. Je pense aussi que les mots de la civilisation que Freud voulait corriger était différent. Une morale sexuelle beaucoup plus sévère, une morale du christianisme, qui fait sans doute que la notion de refoulement est beaucoup plus forte. Ou est-ce qu'on parle encore aujourd'hui, est-ce que vous avez vu des femmes hystériques? Ça n'existe plus. C'est plus cette notion-là qu'on voit, hein. Alors que là, ça a été un peu focalisé là-dessus. D'où cette nécessité. Aujourd'hui, on voit évidemment que Freud il passe pour un obsédé sexuel. Il voit que ça comme dimension déterminante. Et cela a été évidemment modifié. Je crois qu'aujourd'hui, il y a au moins 50 différentes thérapies psychologiques, psychothérapiques, etc., dont certaines d'ailleurs relèvent de la philosophie, comme on va en reparler si possible demain. Donc, Freud est un point de focal, c'est une charnière. D'une part, c'est un peu pour prendre un terme médiéval, c'est un nain sur une épaule de géant. Nous sommes tous des nains. Chacun amène quelque chose. Donc, il a bien compris, et de manière géniale, ces choses pour amener cette pensée un peu plus loin. C'est Bernard de Chartres qui disait, je crois, ça. Nous sommes tous sur des épaules de géant. Et on avait déjà évoqué tout au début Freud à propos de la Traumdeutung, de l'interprétation des rêves qu'il a publié tout au début du siècle, en 1900. Je crois que c'est quand même vraiment l'ouvrage le plus important de Sigmund Freud. Cette période, et aussi les publications qu'il a fait entre 1900 et 1910 sont les plus importantes. Le fait justement qu'il s'intéresse aux rêves, le relier de nouveau à Esculape, comme vous l'avez exposé, on voit ce lien tout à fait. En rêve, on consulte le dieu Esculape, et tout à coup Sigmund Freud dit « c'est dans les rêves qu'on peut trouver certaines des causes des maladies ». Il dit pas exactement ça, mais il montre cette idée même, que c'est une des clés de la psychothérapie. Par la suite, donc on peut dire que les rêves, donc ça c'est certainement une des choses qu'il a amené, une approche médicale de l'interprétation des rêves. Alors là, on a aussi différentes écoles, Freud d'une part qui voit dans le rêve ce qu'il appelait une Wunscherfüllung, un accomplissement quasi hallucinatoire du désir. On a un de ses disciples, Adler, qui voyait plutôt dans le rêve quelque chose comme une simulation pilotée par ordinateur, il faudrait presque dire aujourd'hui. Donc, une réalité virtuelle qui permet de comprendre par avance ce qui arriverait. C'est dans ce sens-là qu'il voyait ça, un Vorversuch, un essai. Et Jung, finalement, voyait dans le rêve une compensation. Il dit, je cite, « C'est la représentation spontanée de la situation actuelle de l'inconscient sous forme symbolique. » Une longue phrase pour montrer au fond combien il voit là-dedans quelque chose qui de différent, mais c'est des nuances pour les trois. Ce qui est important, c'est de voir que pour ces trois fondateurs de la psychanalyse moderne, pour tous les trois, l'interprétation des rêves est une composante essentielle de l'analyse. Et cette composante, il faut bien dire, c'est Freud lui-même qui l'a introduite par ce livre majeur de l'interprétation des rêves.
Mais Wolfgang Gierkernagel, je crois qu'il serait bon de rappeler cette chose tout à fait évidente dont on parlait au début de la semaine, c'est que toute thérapie, et la psychanalyse, la psychothérapie freudienne en particulier, commence d'abord et avant tout par une forme de connaissance et de description de l'âme ou de la psyché. Et on sait que Freud, avant même d'écrire la Traumdeutung, la science des rêves en 1900, avait déjà élaboré ce qu'il appelle la construction de l'appareil psychique, hein, avec tout ce qui est topique, comme il l'appellera plus tard, avec le conscient, le préconscient, l'inconscient. Donc il a élaboré tout un système, une construction peut-être fictive ou théorique, mais qui va lui permettre d'élaborer une manière de guérir ces zones psychiques défaillantes, ce dysfonctionnement lié au refoulement, à la culpabilité, etc. Et là, je crois aussi que vous pourriez peut-être montrer aussi que c'est une invention freudienne assez importante au niveau de la définition de l'appareil psychique.
Alors, il y a une partie de ces termes, comme je l'ai mentionné, comme par exemple l'inconscient, qui existait déjà dans tout le 19e siècle, puisque c'est Carus qui l'a introduit. On a aussi Pierre Janet, que j'ai mentionné, Charcot, Breuer, qui ont fait des esquisses dans ce domaine. Il ne faut pas oublier que déjà Aristote parlait de l'âme, donc toutes sortes de philosophes ont déjà cherché à comprendre l'âme, c'est un des éléments essentiels. Tout l'idéalisme allemand, c'est l'étude de la conscience de soi. Donc Freud, en ce sens-là, a noué d'abord en tant que philosophe, médecin et philosophe, avec une tradition existante. À ma connaissance, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de Freud, c'est plus dans le contexte d'une interrogation générale qu'il y a environ 7 ou 8 ans, je me suis penché avec passion et beaucoup de plaisir dans les œuvres de Freud. À ma connaissance, Freud a introduit la notion de psychanalyse, effectivement, en tant que telle, c'est-à-dire psychanalyse par une libre association d'idées, et d'avoir vu en cela, ce qui est d'ailleurs très juste à son époque, un correctif au revers numéro 1 de la vie civilisée, c'est-à-dire le refoulement. Là, je crois me souvenir que Claude Lévi-Strauss a aussi exprimé ça très bien. Il y a deux choses qui caractérisent toute civilisation. D'une part, la soumission au pouvoir politique, et d'autre part, la restriction des impulsions sexuelles. Ces deux choses caractérisent toute civilisation. Donc, ces choses-là créent, selon Freud, un refoulement, et ce refoulement a besoin d'un correctif. Et ce correctif, c'est la psychanalyse, reprise donc par ses disciples, notamment Jung, qui ensuite en a fait une psychologie analytique. À mon savoir, il a aussi introduit la notion de résistance. Il semble que ça, c'est une des notions qui vient clairement de lui. Donc il a quand même vraiment refondu énormément de choses. Ça, c'est justement ce que j'ai dit. Il s'agit de voir ce qu'il a emprunté ailleurs et ce qui est son génie propre, n'est-ce pas? Alors, la notion de résistance, j'ai plus de problèmes avec cela, je dois dire, à ma mémoire. C'est presque un peu une disqualification qui peut-être a débouché sur les allures de secte qu'a pris son mouvement par moment. Il faut savoir qu'à la fin, ils portaient tous une bague donnée par Freud. C'est des choses, à nos yeux aujourd'hui, on serait un peu effrayés. Et à mon sens, c'est dangereux parce que, selon Freud, la résistance est la preuve même que le psychanalyste a raison, donc que Freud a raison. Freud dira, le fait que vous me contredisez me prouve a fortiori que j'ai raison. C'est une manière de disqualifier l'autre, ça peut amener à l'obstination, à l'aveuglement. Mais peut-être c'est aussi intelligent parce que d'une certaine manière, Cela peut quand même montrer une chose. C'est vrai que des fois, quand on montre à quelqu'un ses défauts, il va nier farouchement. Ah, mais pas du tout, c'est pas vrai, j'avoue rien du tout. Ou plutôt, j'avoue tout. Ou plutôt, je dis c'est pas du tout le cas, mais j'avoue tout. Ces sortes de contradictions. Donc, il met le doigt sur une chose, mais qui est aussi ambiguë. C'est toutes ces ambiguïtés de la psyché. Donc, je pense que c'est une notion intéressante à manier avec prudence. Mais il faut quand même reconnaître que c'est de manière peu libérale de contraindre le patient à se plier aux convictions de l'analyste. C'est donc là, à la fois, le génie de cette invention, de cette notion, mais je pense aussi les limites au-delà. C'est une notion qu'il faut prendre avec prudence. Et une autre dont vous avez parlé, Serge, qui est aussi un de vos thèmes philosophiques, j'ai lu l'esquisse d'un de vos articles justement là-dessus aussi, le transfert. Ici donc le transfert dans le sens où le patient déverse son trop-plein d'affect sur l'analyste. Ça c'est évidemment assez flatteur. Je crois qu'on peut là aussi dire que déjà chez Platon, l'amour... Donc forcément l'amour du maître, l'amour du philosophe, l'amour envers Socrate, par exemple l'amour du bel Alcibiade envers Socrate, il dit que Socrate est le plus beau des hommes alors qu'on sait qu'il était laid, il avait un regard de poisson et tout, mais sa beauté spirituelle, sa sagesse rayonnante faisait que pour Alcibiade c'était le plus beau des hommes. Donc là aussi on voit que l'amour est une composante essentielle de la pédagogie, donc de tout enseignement. Donc pour le dire avec Anaxagore, tout est dans tout et pourtant il y a de grandes individualités qui cristallisent ces choses et qui font tout à coup avancer la perception, cette perception justement qui a énormément avancé par les progrès de la science objective dans le 19e siècle et qui ont produit ces spectaculaires révolutions que l'on connaît, que l'on a connues au 20e siècle et qui se poursuivent au 21e.
Mais je pourrais vous relancer sur ce que vous avez dit tout à l'heure, un peu rapidement, sur Freud comme nouvel Asclépios.
C'est tout à fait juste. C'est effectivement, c'est une de ces choses qu'on pourrait peut-être plus ressortir comme contribution de cette ressemblance des personnages plutôt que d'approfondir la psychanalyse qui n'est pas, en fin de compte, ma profession, ma spécialité. C'est plus l'histoire de la psychanalyse, son enracinement philosophique. Je crois que là, dans ce que j'ai dit, j'ai suffisamment montré ses antécédents philosophiques de la psychanalyse. Et... disons, Freud, c'est le nouvel Asclépios dans la mesure où, comme dans la thérapie asclépienne, il voit dans l'interprétation des rêves et rien d'autre. C'est sur cette base, en réhabilitant cette interprétation des rêves, qu'il renoue avec Asclépios. La grande différence, évidemment celle qui est un peu scabreuse dans notre perception aujourd'hui, c'est que Freud voyait une dimension essentielle dans le fait que le patient paye, alors que, on le sait, Asclépios a payé de sa vie le fait de faire payer un riche qu'il a guéri. Il a, à un moment donné, il est devenu plus humain. Il faut voir cet Asclépios qui est à la fois divin et humain. Hein. Et tant qu'il était Dieu, il n'a pas besoin d'argent. Maintenant, du moment au 19e, au 20e, c'est tout un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire « je fais une chose gratuitement » si on voit tout le système social ? L'argent joue un rôle essentiel. Et en tout cas, Freud carrément le dit. Il y a une dimension pécuniaire qui est essentielle. Vous l'avez aussi déjà dit, je crois, au début de l'émission. Et c'est là, je crois, où se fait la différence. Pour cette raison, Asclépios a été foudroyé. Mais là, dans ce foudroiement, je vois quand même aussi... une interprétation très ambiguë. On peut interpréter ça comme les rêves dans une manière ou d'une autre. Il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, les gens qui ont été foudroyés par Zeus, donc quiconque est mort de la foudre, c'est un signe d'élection divine. C'est un signe dont on ne se remet pas, mais une personne qui est morte, frappée par la foudre ou qui s'en remet, a été touchée du doigt de Zeus. Donc c'est a fortiori un peu comme la mort du Christ. C'est peut-être une punition, c'est un peu comme ça que c'est évoqué dans le contexte de Platon, mais en fait c'est peut-être aussi justement une confirmation, en dernier ressort, de la divinité d'Asclépios. Par-delà ça, on pourrait faire toute une thématique, on pourrait faire toute une étude sur les ressemblances quasi physiques entre Asclépios avec sa barbe, c'est tous des barbus, le Christ barbu. Notez, il n'a pas toujours été représenté comme barbu. Dans l'archéologie paléochrétienne, les représentations les plus anciennes du Christ montrent un Christ imberbe. Ça, c'est assez frappant. Mais il y a tous ces aspects-là, et le tournant de Freud, c'est d'avoir osé, au fond, revêtir, c'est bien ça, c'est revêtir la blouse blanche du médecin, relier un domaine qui fait partie des sciences exactes en constatant ses limites et en disant on peut commencer à approcher avec des méthodes scientifiques ce qui a déjà été vu dans l'Antiquité. Et c'est là où effectivement le Christ est un nouvel Asclépios. Comme on l'a vu dans la Rome antique, le premier des hérétiques, Simon le magicien, est un nouvel Asclépios. Il a même été vénéré sur l'île Tibérine en même temps que Esculape, donc la version romaine d'Asclépios. Et je crois que Freud, effectivement, peut aussi être appelé un nouvel Asclépios. Un nouvel Asclépios est éminemment un philosophe, puisqu'il s'intéresse non pas aux maladies physiques, mais aux maladies de l'âme, en tant que ces maladies, évidemment, ont aussi un rebondissement psychosomatique.
D'ailleurs, pour continuer un peu sur votre rapprochement, on pourrait tout simplement citer à nouveau le célèbre aphorisme qu'on trouve au temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde », avec une vocation assez proche de la psychanalyse, qui est quand même de se connaître soi-même aussi. Finalement, un patient qui peut vouloir s'engager dans une analyse, c'est aussi pour se connaître un peu mieux lui-même. D'ailleurs, il y a beaucoup d'analystes qui ont fait ce lien entre ces deux vocations, et je crois qu'elle n'est pas du tout impertinente.
Ça, c'est profondément vrai. C'est de cet angle-là qu'on peut dire sans hésiter que Freud est et a toujours été un philosophe. C'est un peu le problème de cette fragmentation du savoir actuel au 19e, au 20e siècle, cette perte de ce que Rabelais appelait l'homme universel, celui qui a un savoir universel. Les derniers qui résistent, qui essayent au fond d'avoir une universalité, c'est les philosophes. Mais là aussi, on sait qu'au 20e siècle, cet alignement de la philosophie par rapport aux sciences exactes, c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'être un métaphysicien. Et pourtant, ces choses sont présentes. À mon avis, le retour de la métaphysique sera très certainement se faire par un physicien, si ce n'est pas déjà fait. Il y aurait des noms à citer. Là, on déborde un peu de notre sujet, mais Freud effectivement fait partie de la famille des philosophes. Aujourd'hui, évidemment, on peut voir des différences. Il y a, à mon sens, aujourd'hui, trois types de personnes qui s'occupent de l'âme. Il y a la vocation christique, qui donne le prêtre, le curé, le pasteur. Le pasteur est peut-être même le terme le plus christique, à mon sens, puisque c'est le berger. Le berger. C'est cette notion-là, ça c'était une des facteurs. Tout le Moyen-Âge, que ce soit par le confessionnal, on sait que le confessionnal est quand même, d'une certaine manière, une préfiguration du divan psychanalytique. On se confessait, que font les patients chez Freud et ses disciples? Ils se confessent, et ils confessent justement les choses qu'ils ont sur l'âme. Et je crois que là, il y a quand même énormément la culture chrétienne qui a rendu possible Freud. Le refoulement, c'est un refoulement dû à la moralité, à la morale chrétienne, le refoulement de la sexualité. Donc, au Moyen-Âge, à la Renaissance et même aujourd'hui, dans le confessionnal, c'était ce genre de péché souvent qui était évoqué. C'est les péchés qu'on ne pouvait pas confier à la famille ni à ses proches. Si on a commis un adultère ou d'autres choses, c'était souvent des choses d'ordre sexuel. Donc cela existait peut-être justement comme un correctif au christianisme. Il y avait la confession. Et ce correctif d'une civilisation chrétienne qui est en passe au 19e siècle de ne plus être chrétienne, c'est quelqu'un qui l'offre et qui prend un peu le statut de prêtre, par certains traits. C'est pour ça qu'on peut parler de secte des fois quand même. C'est une secte, ces psychanalystes. Et donc, à partir de Freud, il y a cette relève, il y a le passage du soin de l'âme qui passe du pasteur ou du prêtre à celui de psychanalyste. Et comme on le verra demain, il y a ensuite aussi une sorte de, une réelle réappropriation de la dimension psychique de la philosophie, du soin de l'âme par les philosophes. Wolfgang Wackernagel.